C'est les deux textes liturgiques pour ce 20e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tiré de saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, veillez à vous conduire avec circonspection, non pas comme des insensés, mais comme des sages qui rachètent le temps, puisque ce sont ici les jours mauvais. Soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez ce que Dieu veut de vous. Ne vous enivrez pas avec le vin, ce qui mène à la luxure. Remplissez-vous de l'Esprit Saint, au contraire, pour vous entretenir en vous-même de psaumes, d'hymnes, de cantiques spirituels, pour chanter à Dieu et psalmodier dans vos cœurs et rendre grâce de toutes choses à notre Dieu et Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Veuillez vous lever pour l'Évangile. Suite de Saint Évangile selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait un officier royal dont le fils était malade. À Capharnaüm, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver, le priant de descendre à Capharnaüm et de guérir son fils qui était à la mort. Sur quoi Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des signes et des prodiges, vous ne croyez pas. Seigneur, continua l'officier royal, descendez avant que mon fils ne meure. Allez, lui dit Jésus, votre fils est en pleine vie. » L'homme crut à la parole que venait de lui dire Jésus, il alla son chemin. Or, tandis qu'il descendait ainsi, ses serviteurs vinrent à sa rencontre pour lui annoncer la nouvelle que son fils était revenu à la vie. Et comme il leur demandait à quelle heure il s'était trouvé mieux, ils répondirent, « C'est hier à la 7e heure que la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut alors que c'était l'heure même à laquelle Jésus lui avait dit, « Votre fils est en pleine vie. » Et il crut, lui et toute sa maison. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Donc à partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine, je voudrais commencer à ce que nous apprenions, que vous appreniez, un autre kyrie. Kyrie, c'est le credo, c'est tous les chants grégoriens de la messe. Je voudrais bien qu'on apprenne la kyrie numéro 11. Alors vous l'avez déjà sur le nouveau site dame-marie.net. Donc vous pouvez avoir déjà la musique avec les partitions pour commencer à vous habituer à la tonalité de la kyrie numéro 11, qui n'est pas un kyrie difficile, pour qu'on puisse un petit peu varier. Hein. Donc vous avez fait des gros progrès, c'est bien, par rapport au début où c'était un grand silence. Il y a un gros progrès qui a été fait, mais enfin, c'est toujours des progrès à faire, à continuer. Attention aussi avec le site ancien, donc il n'y a pas beaucoup de nécessité pour moi de garder deux sites, le site ancien et le nouveau site. Donc en fait, on va garder simplement le nouveau site et le site ancien, on va finir par ne plus s'en occuper, que j'ai pas beaucoup de temps. En plus de ça, à chaque fois, il faut que je paye, moi, une fois par an, pour m'abonner au site qui m'héberge. Donc je préfère garder qu'un seul site plutôt que deux sites. Donc pour tous ceux qui veulent travailler à partir des textes qui sont sur le site, donc allez sur le nouveau site qui est beaucoup plus rapide. Aussi, il y a toujours c'est un gros problème pour tous les prêtres dans la tradition avec les confessions. Bon. Donc, pour ceux qui veulent se confesser d'abord, je demande à tous ceux qui habitent dans le coin, qui habitent pas loin, toute la mesure du possible, que vous voulez vous confesser, venez vous confesser en semaine, parce que ça permet de réserver plus facilement les places pour ceux qui habitent loin. Ensuite, essayez, si bien que c'est pas facile, pour ceux qui habitent très loin, de venir un peu à l'avance. Moi, je suis prêt à partir à peu près une heure avant. Bon. Dans certaines chapelles, j'avais fait ça aux États-Unis, j'en venais très très loin, et j'avais décidé, en accord avec les fidèles, que je ne commençais pas la messe avant la fin des confessions, bon, ce qui pose certains problèmes. Vous pouvez en discuter entre vous, moi je ne suis pas contre cette idée-là, mais ça peut parfois retarder la messe de 20 minutes à une demi-heure, ce qui n'est pas non plus très bon, surtout moi quand j'ai une autre chose à faire après la messe, donc c'est un petit peu à vous d'en discuter, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Attention, donc je crois qu'il y a le changement d'heure dimanche prochain. Vous pouvez dormir une heure de plus. Alors, pour les messes cette semaine, lundi, mardi, mercredi, messe à 10h. Jeudi, messe à 8h. Vendredi, samedi, pas de messe parce que je vais à Andorre, comme j'y vais une fois par mois. Alors, ce mercredi, donc, nous aurons le cours sur les actes du magistère à 8h, donc ici, de 8h à 9h30, qui sera retransmis en vidéo et en audio sur le site. Aussi, je vous rappelle que j'ai placé à l'entrée de la chapelle, dans le petit panier, le calendrier des retraites pour 2023. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, parce que je peux prendre 6 personnes par retraite et j'ai déjà une dizaine d'inscriptions. Donc n'attendez pas le dernier moment. Alors, aussi, je voudrais dire faire une petite note importante pour que nous gardions tous une grande union entre nous. Ça, c'est très important dans les chapelles qui commencent à grandir. On dit en France que quand on a trois personnes ensemble, ça fait quatre groupes. Bon, c'est un peu vrai. Donc, faites attention de bien garder la charité entre vous et surtout l'union doctrinale, en distinguant bien les choses qui sont de foi, les choses qui ne sont pas de foi. Donc, j'ai fait ici une petite liste des points de doctrine pour être sûr justement qu'il n'y ait pas de division qui commence à se mettre dans la chapelle, parce que le démon il travaille toujours de la même façon pour essayer de mettre la division. Hein, donc je vous rappelle un certain nombre de points de doctrine qui sont importants pour que justement nous ayons tous les mêmes idées là-dessus. Je n'ai pas d'idée personnelle en matière de doctrine. Je me contente tout simplement de suivre ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Hein. Donc je vous rappelle que le pape Pie XII étant pape, le pape étant infaillible dans les modifications liturgiques qu'il introduit pour l'Église universelle, ce qu'on appelle l'objet secondaire de l'infaillibilité pontificale. Donc nous sommes tenus, sous peine de péché, je peux vous dire aller jusqu'à là, à suivre les réformes de Pie XII. Elles plaisent ou elles plaisent pas, ça c'est autre chose. Hein? Parce que je reçois encore régulièrement des messages, bon, c'est pas un message d'injure, parce que je suis la semaine sainte de Pie XII, parce que je dis la messe de Saint-Joseph le 1er mai, parce que je dis la messe du cœur immaculé de Marie le 22 août. Donc pour moi, le pape Pie XII étant pape, nous avons l'obligation de suivre ces réformes, qu'elles plaisent ou non. Alors faites un petit peu attention aussi aux choses qui ne sont pas de foi. Par exemple, vous pouvez avoir des discussions sur ce sujet-là. Par exemple, la thèse de Mgr Gérard Deslauriers, qu'on appelle la thèse du Cassis Iacum, avec cette distinction entre pape formel et pape matériel, c'est une simple opinion théologique. Bon, je dirais, vous voulez la voir, je ne peux pas vous l'interdire. Cependant, attention, ce n'est pas dogme de foi. Donc, on n'a absolument pas le droit d'obliger en conscience les gens à suivre cette thèse du père Guérard. Hein, c'est une simple opinion théologique. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas des opinions. Par exemple, est-ce que je suis libre d'accepter ou de refuser le message de la Salette en 1846? La réponse est non. Vous n'êtes pas libre. Parce que le message de la Salette a été reconnu par l'Église. L'apparition en 1846 a été reconnue par tous les papes de l'époque, commencé par Pie IX, puis Léon XIII, Saint Pie X, Pie XI, Pie XII. Donc attention à ces choses-là. Là, on n'est pas libre dans ce domaine-là. Pareil, on n'est pas libre. J'ai entendu parfois des gens qui me disent, même sur l'abbé, le texte de l'Apocalypse, c'est un texte historique. Non. L'Apocalypse a toujours été classé dans l'Église comme un texte prophétique, donc qui indique le futur de l'Église. Il suffit de lire le premier verset du livre de l'Apocalypse pour le voir, Saint Jean le dit expressément. Donc attention. Aussi, de l'autre côté, si vous voulez, faites attention à des personnes qui peuvent avoir des idées différentes. Je reconnais qu'on peut être ouvert à certaines discussions, mais il y a des gens qui me disent, même sur l'abbé, ce que vous dites sur Pie XII, il faut aussi le dire sur Jean XXIII. Il est évident qu'à partir de la mort de Pie XII, il y a une rupture complète avec la tradition de l'Église. Donc, c'est pour ça que je suis le missel de 1958 et pas les réformes qui suivent. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui dimanche des missions. Et s'il y a quelque chose qui est important dans l'Église catholique, c'est bien l'esprit missionnaire. Monseigneur Lefebvre, qui connaissait quelque chose sur les missions, parce qu'il a été missionnaire pendant toute sa vie en Afrique, était délégué apostolique pour toute l'Afrique française. Monseigneur Lefebvre nous disait, le premier signe par lequel on peut voir qu'une église est en train de mourir, c'est la perte de l'esprit missionnaire. Perte de l'esprit missionnaire. Le mot mission, ça vient du mot latin mittere. Avec son participe passé, missi. Mission, c'est le fait d'être envoyé. Pourquoi? Il suffit de lire cette magnifique oraison que je viens de chanter de la messe pour la propagation de la foi, qui est sans doute une des plus belles oraisons du missel. Voilà ce qu'enseigne l'Église. Ô Dieu qui voulait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, envoyez, s'il vous plaît, des ouvriers à votre moisson et donnez-leur d'annoncer votre parole avec confiance, afin que par la rapidité d'éclat de votre prédication, toutes les nations vous reconnaissent pour le seul vrai Dieu, vous et celui que vous avez envoyé, votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans tous les siècles des siècles. Il y a tout là-dedans. Nous sommes envoyés pour annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, pour que tous les hommes le reconnaissent comme l'unique vrai Dieu. Voilà donc le caractère missionnaire de l'Église. Donc le missionnaire, nous devons tous avoir l'esprit missionnaire. Encore une fois, si l'esprit missionnaire disparaît, si je ne cherche plus à amener les gens autour de moi à notre Seigneur Jésus-Christ, je perds l'esprit même de l'Église. Et une telle Église qui perd l'esprit missionnaire perd, je dirais, sa ligne de vie littéralement qu'il a réunie à notre Seigneur. Donc attention à garder cet esprit missionnaire. On le voit très bien dans l'Évangile, sur ce sujet. Notre Seigneur, qu'est-ce qu'il dit aux apôtres? Allez, prêchez, baptisez. Il envoie ses apôtres. Allez, prêchez, baptisez. Et après, il dit les conséquences. Les conséquences de cette prédication sont énormes. Le salut ou la damnation. Celui qui croit et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Et plus loin, il explique, la condamnation, ce n'est pas n'importe quoi. Le lieu des pleurs et des grincements de dents. Le lieu des pleurs et des grincements de dents, c'est l'enfer. Donc, le salut éternel de millions et de millions d'hommes dépend de la prédication, justement, de ceux qui ont la foi catholique. Alors, c'est quelque chose d'absolument fondamental, d'où l'importance de cet esprit missionnaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on... L'Église a toujours envoyé de par le monde, au cours des siècles, des missionnaires pour convertir les gens. Qu'est-ce que ça veut dire convertir? Vertire en latin, c'est tourner. J'avais une vie entièrement centrée sur l'adoration de l'homme, sur la liberté, l'égalité, la fraternité et toutes les bêtises d'aujourd'hui. Je me tourne complètement pour me retourner vers mon Créateur, mon Dieu et Seigneur. Et au lieu de la liberté, ben, je vais enseigner l'obéissance. Au lieu de l'égalité, je vais enseigner la justice. Au lieu de la fraternité, je vais enseigner la charité. Et donc on voit bien que ce que nous devons enseigner, c'est le contraire de ce que dit le monde. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, les missionnaires ont toujours été en but à toutes sortes de persécutions. Nous devons convertir les gens autour de nous. Et quand on prononce ce mot, mes bien chers frères, dans le monde moderne, les gens deviennent verts de rage, littéralement. Monsieur l'abbé, n'utilisez pas ce mot-là. Nous sommes là pour dialoguer avec les religions. Pas de prosélytisme. Mais ce n'est pas ce qu'a fait notre Seigneur. Comment notre Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné, il met bien les règles du jeu sur la table. Et donc nous avons ce devoir, mes bien chers frères, de prêcher l'Évangile, de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, et prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Et on peut vraiment dire, on le voit, c'est clair et net avec... Après la mort du pape Pie XII, surtout l'arrivée de Vatican II, on voit très bien ce refus catégorique de chercher à convertir. Et les évêques, on le voit très bien, depuis Rome, le message était très clair, on ne veut plus chercher à convertir, il faut dialoguer avec l'erreur, dialoguer avec le péché. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on ne peut pas, je vous ai déjà expliqué ces choses qui sont fondamentales, on ne peut pas prétendre aimer Dieu sans haïr l'erreur. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans haïr le péché. Voilà pourquoi il faut convertir. Et ce mot énerve beaucoup de gens, parce que dès qu'on parle de conversion, évidemment, il y a un caractère de force là-dedans. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a voulu obliger de façon coercitive les gens à se sauver. Il n'a pas leur mettre un canon de revolver derrière le dos, derrière la nuque. Mais il les oblige. Celui qui ne croit pas, celui qui ne sera pas baptisé, sera condamné au feu de l'enfer. Ce n'est pas une coercion, ça? Bien sûr que c'est une coercion. Et si nous aimons les gens qui sont autour de nous, si nous aimons les hommes, nous devons aider tous ces hommes à monter vers le bon Dieu. Oui, bien, chers frères, ce qui est absolument, absolument fondamental à comprendre. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ a expliqué ces choses-là qui ne passent plus aujourd'hui, malheureusement, tout simplement parce qu'il est l'unique vrai Dieu, c'est ce que dit l'oraison d'aujourd'hui. devons pas annoncer un Dieu parmi d'autres dieux, nous devons annoncer l'unique vrai Dieu, hors de laquelle il n'y a pas de salut. C'est pas ma doctrine personnelle. Notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit expressément, il n'y a pas d'autre nom sous le ciel par lequel vous puissiez être sauvés que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était vrai il y a 2000 ans, c'est vrai aujourd'hui, ce serait vrai dans 2000 ans. Et donc, l'idée même, si vous voulez, de mettre sur un pied d'égalité le vrai Dieu, qui est un Dieu en trois personnes, dont la deuxième personne s'est incarnée dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie pour devenir homme, qui dans sa deuxième personne a voulu mourir sur la croix dans son humanité, le Vendredi Saint pour nous sauver, qu'y a-t-il de plus détestable que de prétendre que ce vrai Dieu est comme les autres faux dieux, comme les idoles? De comparer notre Seigneur Jésus-Christ à une idole, mais c'est un blasphème, mes bien chers frères. Et on ne réalise plus du tout ces choses-là. On ne réalise plus du tout que de dire, par exemple, que les musulmans, les bouddhistes et les catholiques ont le même Dieu, on ne réalise pas à quel point c'est un blasphème. Parce que c'est laisser croire qu'on peut se sauver de la même façon avec une idole et avec le vrai Dieu. Vous croyez que notre Sainte Vierge Marie aurait accepté qu'on mette au même niveau son divin fils et le Dieu du bouddhisme, le Dieu de l'islam, ou le Dieu du shintoïsme, ou d'autres fausses religions? Il n'y a qu'un seul Dieu, mes bien chers frères. Il faut se mettre ça dans la tête. Et personne ne peut se sauver sans notre Seigneur Jésus-Christ. Et non seulement il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule Église, hors de laquelle il n'y a pas de salut. Ceci était valable il y a 2000 ans, c'est valable aujourd'hui, ça sera valable dans 2000 ans, on ne peut pas changer ces choses-là. Mais le monde moderne n'en veut plus. Je sais, c'est ce qui a provoqué justement Vatican II. Vatican II a été provoqué par le fait que le monde ne voulait plus de cette vérité. Il ne voulait plus chercher à convertir les gens, il voulait chercher simplement à dialoguer avec l'erreur, dialoguer avec les fausses religions. Et on le voit très bien dans le monde moderne. Dans les missions, mais c'est ahurissant. Les prêtres qui, dans les missions, nous avons des exemples, je pourrais vous donner des noms. Les prêtres qui, dans les missions, continuaient vouloir annoncer notre Seigneur Jésus-Christ aux peuplades sans foi dans lesquelles ils étaient envoyés, qui commençaient à vouloir annoncer, comme ils l'ont toujours fait pendant des années, annoncer notre Seigneur Jésus-Christ, parler de la Sainte Trinité, de l'incarnation, de la rédemption, et hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, qu'il fallait devenir catholique pour pouvoir aller au ciel. Tous ces prêtres se sont trouvés mis sur la touche immédiatement. On n'en voulait plus dans les missions. Parce que les supérieurs leur disaient, vous n'êtes pas là pour convertir, vous êtes là pour dialoguer. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit aux apôtres, vous allez dialoguer avec l'erreur. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit, je vais dialoguer avec Caïphe, avec Pilate ou avec Hérode. Il n'a pas dialogué. Il a dit clairement, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Voilà ce qu'il a dit. Je suis l'unique voie, l'unique vie, l'unique vérité. Ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté sa passion. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'est plus habitué à ces choses-là. On a d'énormes difficultés, justement, à comprendre ces choses-là, parce que le libéralisme est passé, rentré dans le cervelle. Ah, mais mes chers frères, pourquoi il faut faire extrêmement attention à ces choses-là? Et Dieu va même donner des notes, ce qu'on appelle les notes de l'Église, pour nous aider à comprendre où est la véritable Église. Il y en a quatre, on peut même en mettre cinq. L'Église catholique, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, hors de laquelle il n'y a pas de salut, elle est une, sainte, catholique, apostolique, et vous pouvez ajouter une cinquième note, elle est persécutée. D'abord, elle est une. Une, ça veut dire quoi? Unité de foi, unité de culte, unité de gouvernement. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel que l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, l'Église catholique. Elle est sainte, parce que ce fondateur est saint. C'est la doctrine de l'Église est sainte. Parce qu'il y a la sainteté dans l'Église, même s'il y a des pécheurs dans l'Église. La sainteté de l'Église vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il peut y avoir de la sainteté dans une fausse Église? C'est impossible. Il y a des protestants qui ont donné leur vie pour leur Église. Il y a des musulmans qui ont sans doute donné leur vie pour leur Église. Est-ce qu'ils sont martyrs? Non. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts pour le vrai Dieu. Ils sont morts pour un faux Dieu. Vous voyez? Donc attention à ces choses-là. L'Église est sainte. Il n'y a pas de sainteté. Il ne peut pas y avoir de sainteté en dehors de l'Église catholique. Il y a des braves types. Des braves gens, ça court les roues. Il y en a encore, Dieu merci. Il y a des gens, j'ai connu des protestants, quand j'étais aux États-Unis surtout, il y en avait beaucoup, j'ai connu des protestants qui étaient très braves, qui étaient très charitables, humainement parlant, qui avaient une charité naturelle, qui avaient une gentillesse, une bonté naturelle, très bien, mais ce n'est pas la sainteté, ça. Pourquoi? Parce qu'il manque l'essentiel, il manque l'état de grâce. Et l'Église est aussi catholique. Ça veut dire quoi, catholique? Catholique, ça veut dire universel. Pour tous les temps, tous les lieux, tous les peuples. Donc il n'y a pas une église pour tel pays, une autre église pour tel autre pays, à tel point que dès que vous voyez le mot d'un pays attaché à une église, vous êtes sûr que c'est une secte. Vous allez parler de l'église catholique américaine, c'est une secte. L'église catholique française, c'est une secte. Parce que l'église catholique est par définition universelle, valable pour tous les temps. Donc si vous entendez parler d'une église qui commence avec Vatican II, sous-entendu qui élimine les 20 premiers conciles œcuméniques et les 260 papes, vous pouvez être sûr que vous êtes en dehors de l'Église. Parce que justement, cette Église n'est plus catholique. Et enfin, l'Église est apostolique. Ça veut dire quoi, apostolique? Apostolique, ça veut dire qu'il y a deux sortes d'apostolicité. Il ne faut pas oublier les deux. Il y a une apostolicité historique. Ça veut dire que le pape vient en ligne droite du premier pape, Saint-Pierre, mais il y a aussi une apostolicité dogmatique qu'on oublie tout le temps. L'apostolicité dogmatique, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que l'enseignement du pape doit venir de Saint-Pierre. Donc il y a avoir une ligne continue pour justement transmettre le dépôt de la foi. C'est pour ça qu'on a un pape. Pourquoi on a un pape? On a un pape pour transmettre le dépôt de la foi. Donc dès qu'un pape commence à ne plus transmettre le dépôt de la foi, il se coupe de l'apostolicité. Une église qui n'est plus apostolique, c'est une église qui n'est plus catholique. Une église qui n'est plus une, c'est une église qui n'est plus catholique. Une église qui n'est plus persécutée, c'est aussi une église qui n'est plus la véritable église. Parce qu'on peut rajouter cette cinquième note, à savoir l'église du vrai Dieu est toujours, toujours persécutée. Ça date de longtemps, rappelez-vous la prophétie de Siméon. Cet enfant sera un signe de contradiction pour la chute ou la résurrection de beaucoup en Israël. La très sainte Vierge Marie, un glaive de douleur vous percera l'âme. Notre Église, notre bien cher frère, et bien cher frère, parce qu'elle est catholique, elle a toujours été persécutée. Et c'est un bon signe. Alors, je voudrais vous lire un texte, enfin, quelques textes. Ça va être assez court, parce qu'on ne peut pas tout parler de tout. Je voudrais vous montrer comment les papes parlaient. Comment les 260 papes, depuis Saint-Pierre, jusqu'à Pie XII, comment ils parlaient de ces sujets-là? Est-ce que vous croyez qu'ils prenaient trois paires de gants? Ils allaient directement au but. On a besoin de relire ces textes. J'ai pris simplement deux textes, et encore que des parties de ces textes que je n'ai pas le temps. Le premier, c'est un texte fondamental, une partie du texte de Pie IX, 1864, le Syllabus. Le deuxième, c'est le grand texte de Pie XI, Mortalium Animos, la condamnation de l'œcuménisme par Mortalium Animos, Pie XI, 1928. Vous allez voir comment parlaient les papes. Attention, dans ces textes-là, c'est le pape qui parle comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église. Les quatre conditions de l'infaillibilité y sont. Ce sont des textes infaillibles, qui étaient donc infaillibles au temps où ils ont été prononcés par ces papes, qui sont infaillibles aujourd'hui, qui sont infaillibles dans 10 000 ans. On ne peut pas changer ces choses-là. Alors je vous donne simplement quelques exemples, c'est pour vous aider, parce qu'on a besoin de comprendre et de se rappeler ces choses-là qu'on oublie complètement aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression que ça passe plus. Voyez comment parlaient les papes, voyez comment doit parler un vrai pape aujourd'hui. D'abord, je vais vous donner quelques propositions du Syllabus, qui sont les propositions condamnées par l'Église. Première proposition condamnée, il est libre à chaque homme d'embrasser et de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison, condamnée par l'Église. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion, condamnée par l'Église. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ, condamnée par l'Église. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique, condamnée par l'Église. L'Église doit être séparée de l'État et l'État séparé de l'Église, condamnée par l'Église. À notre époque, il n'est plus utile que la religion catholique soit considérée comme l'unique religion de l'État, à l'exclusion de tous les autres cultes condamnés par l'Église. Le pontife romain peut et doit se réconcilier et transiger avec le progrès, le libéralisme et la civilisation moderne, condamnés par l'Église, infailliblement. À tel point que si vous n'êtes pas d'accord avec ces textes-là, vous n'êtes pas catholique. C'est aussi simple que ça. Monsieur l'abbé, en 2022, on n'a plus le droit de prêcher ça. Ah bon, et pourquoi ? Et on nous reproche de prêcher ces choses-là. Monsieur l'abbé, pour qui vous prenez-vous ? Pour qui je me prends ? Pour un prêtre catholique. En tant que prêtre catholique, je n'ai pas le droit d'enseigner des choses personnelles sur ce sujet. Je reprends ce qui a toujours été enseigné par l'Église et je transmets. Le prêtre est quelqu'un qui transmet. On me dit, monsieur l'abbé, c'est quand même un peu vieux, 1864. L'évangile qu'on suit a été écrit il y a 2000 ans, mes bien chers frères. Je vous donne quelques extraits de Mortalium Animos. C'est pas mal aussi. 1928, Pie XI. La grande encyclique de Pie XI contre l'écuménisme actuel. Tout l'écuménisme actuel est condamné à l'avance par Pie XI et de façon infaillible, s'il vous plaît. Je vous lis quelques parties parce que je n'ai pas le temps de tout vous lire. Il va condamner d'abord ceux qui voulaient l'union entre toutes les religions. Ça vous dit quelque chose, ça ? C'est ce qu'ils veulent partout, tout le temps, à longueur de journée. Voilà ce que dit Pie XI. On voit ces gens nourrir l'espoir qu'il serait possible d'amener sans difficulté les peuples, malgré leurs divergences religieuses, à une entente fraternelle sous la profession de certaines doctrines, considérées comme un fondement commun de vie spirituelle. De telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables, en ce sens que tout également, bien que de manière différente, manifeste et signifie le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Il en résulte, dit le pape Pie XI, qu'il ne peut y avoir de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur les paroles de Dieu révélées. Il est par conséquent impossible, non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique. À moins que nous ne voulions dire, Dieu ne plaise, ou bien que le Christ notre Seigneur a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elles. Il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à ces congrès entre les différentes religions et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'Église unique du Christ. Pouvons-nous souffrir, dit le pape, infailliblement. Pouvons-nous souffrir, ce serait le comble de l'iniquité, que soit mise en accommodement la vérité divinement révélée. De plus, quand le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. Il a sanctionné cet ordre par ces mots, « Celui qui croira sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné ». Comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi ? C'est pourquoi, puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples du Christ. Il est absolument illicite d'user de la distinction qu'il leur plaît d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux, comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que les seconds pourraient être laissés comme matière libre à l'assentiment des fidèles. La vertu surnaturelle de foi a en effet pour objet formel l'autorité de Dieu révélant, autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre. Le magistère de l'Église, lequel suivant le plan divin a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement, intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, ce magistère s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. On comprend donc, vénérable frère, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part à ces congrès avec des non-catholiques. Il n'est pas permis en effet de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule église, église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Jamais au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ n'a été souillée. Elle ne pourra jamais l'être au témoignage de Saint Cyprien. L'Église du Christ ne peut commettre un adultère, elle est intacte et pure. Bien, chers frères, il faudrait écouter ces textes à genoux aujourd'hui. Voilà l'enseignement du Christ. Voilà l'enseignement de l'Église, une sainte catholique apostolique. Et voilà cet enseignement jusqu'à la fin des temps. Alors quand on a maintenant des gens qui viennent nous prévenir que les choses ont changé depuis Vatican II, vous comprenez, monsieur l'abbé, cet enseignement correspondait à une certaine époque, à certains types de gens qui étaient un peu bêtes. Aujourd'hui, monsieur l'abbé, on a enfin trouvé l'intelligence. J'ai eu des gens, mes bien chers frères, qui m'ont dit en face, l'Église catholique ne savait pas prêcher l'Évangile avant Vatican II. Donc, Saint François Xavier qui a baptisé de sa main 1 million de personnes, c'est pas prêcher l'Évangile. N'importe quoi. Alors, mes bien chers frères, n'ayons pas peur. Il ne faut pas avoir peur. C'est ça le drame, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur. Disant, monsieur l'abbé, quand même, aujourd'hui, ça ne passe plus. Eh bien, si ça ne passe plus, les gens vont tomber en enfer. C'est aussi simple que ça. Et nous avons le devoir, mes bien chers frères, de prêcher à temps et à contre-temps. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Ce ne sont pas mes paroles. Je n'oserais pas dire des paroles pareilles. Je n'étais pas justement soutenu par tout l'ensemble de l'Église. Et c'est ça le crime, voyez-vous, du monde actuel. Le crime du monde actuel, le crime de Vatican II, c'est de s'être coupé justement de cet enseignement. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je montre ces textes à des gens qui ne veulent pas accepter l'enseignement traditionnel de l'Église, ils disent, même sur l'abbé, c'est trop vieux, les choses ont changé. Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Alors, mes bien chers frères, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faudrait commencer par tenir compte de son territoire de mission qui nous a été confié. Les deux territoires de mission qui vous ont été confiés. Le premier, le plus important, c'est votre âme. Chaque personne a un territoire de mission propre, sur lequel il y a complète autorité. C'est son âme, votre âme, mon âme. Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, dit Saint Pie X, capable de connaître Dieu et le comprendre parce qu'elle est immortelle. Vous avez charge de ce territoire de mission. Vous avez été baptisé, vous avez été illuminé par la grâce du bon Dieu. Vous n'avez pas le droit de laisser votre territoire de mission être profané par toutes les corruptions du monde moderne. Vous n'avez pas le droit de mélanger, même une seule seconde, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ avec les faux enseignements du monde moderne, même si cela doit vous coûter la vie. Donc il y a ce devoir, mes bien chers frères, de protéger son territoire de mission. Et un deuxième territoire de mission que beaucoup d'entre vous ont aussi, ou auront un jour, votre famille. Votre famille, c'est un territoire de mission aussi. Si vous allez voir des enfants, un jour vous en aurez, vous allez devoir protéger la foi de vos enfants. Quand je baptise un bébé, je dis aux parents, après le baptême, je mets l'enfant sur l'autel pour consacrer le bébé à notre Sainte Vierge Marie. Et après, je rends l'enfant à la mère, aux parents, et je dis aux parents, maintenant c'est votre travail. C'est votre travail. Cet enfant a une âme magnifique, ornée par la grâce sanctifiante, ornée par la foi, l'espérance, la charité. Maintenant, à vous de conserver intacte cette beauté d'âme. Alors passons, encore une fois, mes bien chers frères, passons par la Très Sainte Vierge Marie pour nous aider à comprendre toutes ces choses. Vous croyez que la Très Sainte Vierge Marie, une seule seconde, aurait pu penser qu'on pouvait mettre son divin Fils sur un pied d'égalité avec les faux dieux, avec tous les dieux, les faux dieux du Panthéon romain? À l'époque, vous avez des cultes infâmes, de Belphégor où ils brûlaient les enfants vifs. C'est encore pire aujourd'hui. On les coupe en rondelles dans le sein de leur mère. C'est pas mieux. Alors mes bien chers frères, demandons à notre Sainte Vierge Marie. Passons par elle, puisque c'est elle qui est chargée d'écraser la tête du démon. Le rôle de la Très Sainte Vierge Marie, c'est quoi? Le rôle de la Très Sainte Vierge Marie, c'est d'écraser la tête du démon. Ipsa conteret, elle écrasera ta tête. A-t-il été dit au démon. En passant par être Sainte Vierge Marie, mes bien chers frères, demandons-lui de nous aider à comprendre ces choses et d'avoir peur. Une des choses terribles, c'est d'avoir honte de sa foi. Parce que tu as eu honte de moi, j'aurai honte de toi le jour du jugement, nous prévient notre Seigneur. N'ayez pas honte de votre foi. Soyez fiers de votre foi, mes bien chers frères. Et cette foi, elle doit se transmettre partout. Par votre façon de vous habiller, bon, pour nous prêtres, c'est relativement facile parce qu'on a une soutane sur le dos. Si une soutane sur le dos, on n'a pas besoin dans le monde moderne, littéralement, de prêcher notre foi, on la prêche par la tenue. La soutane, c'est déjà un étendard. Ayez, mes bien chers frères, l'équivalent pour vous. Dans votre façon de vous habiller, votre façon de vous comporter, votre façon d'éduquer la famille, votre comportement professionnel, votre comportement social. Soyez catholiques. Nous avons besoin de familles catholiques. Je ne peux que me réjouir, évidemment, de voir que avec la grâce du bon Dieu, eh bien, cette petite chapelle de toute humble produit déjà des fruits, dit aux gratias. Il y a 3 ans, j'avais 2 personnes à la messe, c'est tout. Maintenant, on est 10 fois plus. Bon, et je suis persuadé que si on arrive à voir ce qui est en train de se préparer, une chapelle plus grande, on pourra avoir beaucoup plus de monde. Beaucoup de gens qui m'ont dit, monsieur l'abbé, on voudrait déménager pas loin. Est-ce qu'on veut quitter les villes? On veut pouvoir sauver l'âme de nos enfants. Alors demandez cet esprit missionnaire de comprendre que l'Église catholique est l'unique véritable Église, que notre Seigneur Jésus-Christ est l'unique vrai Dieu en dehors duquel il ne peut y avoir de salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.